Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié en 1929. Mystique et magicien du Tibet est un récit d'observation et une étude accessible des croyances religieuses. Des disciplines contemplatives et des pratiques réputées occultes rencontrées par Alexandra David Neel au cours de ses séjours himalayens. L'ouvrage ne se présente pas comme un simple journal de voyage. Il rassemble plutôt des scènes vécues, des récits recueillis auprès de lamas, d'ermites et de populations locales, ainsi que des réflexions sur les possibilités de l'esprit humain. L'autrice cherche à éclairer la manière dont certains phénomènes psychiques sont pensés dans le monde tibétain, alors largement méconnu en Europe. Elle aborde le bouddhisme tibétain, les retraites solitaires, la méditation, les techniques de concentration et les figures de magiciens populaires. Son regard demeure à la fois curieux et souvent critique face à la crédulité. Le livre doit donc être lu comme le témoignage situé d'une exploratrice érudite, marquée par son époque plutôt que comme une description exhaustive ou définitive du Tibet. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un témoignage de terrain entre voyage, enquête et réflexion sur les religions, la singularité première du livre tient à la position d'Alexandra David Neel. Elle ne décrit pas le Tibet depuis des sources livresques ou des récits indirects. Mais à partir d'un séjour prolongé dans les régions himalayennes et de contact avec des milieux religieux. Son texte associe ainsi l'expérience personnelle, la restitution de conversations et l'examen de pratiques qui frappaient l'imagination occidentale. Cette méthode donne au lecteur des détails concrets sur les conditions de rencontre avec les lamaseries, les maîtres spirituels et les ascètes, tout en laissant apparaître les limites d'un regard extérieur. L'autrice ne prétend pas établir un traité systématique de doctrine bouddhique. Elle choisit des traits saillants susceptibles d'illustrer les idées tibétaines relatives à l'entraînement mental, aux visions, à la mort ou aux forces invisibles. Cette sélection explique le caractère très vivant de l'ouvrage, mais aussi son organisation parfois composite. Il faut distinguer ce que David Neel dit avoir observé de ce qui lui a été rapporté. Cette distinction est essentielle pour une lecture critique. Elle permet de reconnaître la valeur documentaire du livre sans transformer chaque récit extraordinaire en constat démontré. L'ouvrage invite donc moins à adhérer à des prodiges qu'à comprendre leur fonction dans un univers religieux, social et psychologique particulier. Deuxièmement, le bouddhisme tibétain, présenté comme une discipline de transformation mentale, au-delà du pittoresque associé aux magiciens. Le livre met en avant l'importance de l'entraînement intérieur. David Neel décrit un contexte où la méditation, la concentration, la retraite et la maîtrise de l'attention sont envisagées comme des pratiques exigeantes, soutenues par des cadres religieux précis. Les longs ermitages et l'isolement ne sont pas présentés comme de simples fuites du monde, mais comme des moyens de travailler les habitudes mentales et de pousser l'observation de soi à un degré inhabituel. L'autrice rapproche parfois cet horizon des traditions yogiques indiennes, ce qui aide son lectorat à situer l'importance accordée au corps, au souffle, à l'imagination et à la contemplation. Toutefois, l'intérêt du texte ne réside pas dans un manuel de méditation transposable tel quel. Il montre plutôt que les exercices psychiques prennent sens dans une cosmologie, une transmission et une discipline collective. La concentration N y est pas seulement recherchée pour le calme ou le bien-être, mais pour modifier la relation au moi, aux apparences et à la peur. Cette perspective évite de réduire les pratiques tibétaines à des techniques modernes de développement personnel. Elle rappelle que la méditation décrite par David Neel appartient à des voies spirituelles dont les buts et les symboles dépassent largement la détente individuelle. Troisièmement, mystique, magicien et croyances populaires ne relèvent pas d'une seule réalité. Le titre réunit deux figures que le livre invite pourtant à ne pas confondre. Le mystique désigne surtout celui qui poursuit une discipline contemplative et une connaissance intérieure, tandis que le magicien renvoie davantage aux croyances populaires, aux rituels, aux pouvoirs attribués à certains spécialistes et aux attentes concrètes des communautés. David Neel explore cette coexistence sans réduire l'une à l'autre. Elle montre que le paysage religieux tibétain qu'elle rencontre comprend à la fois des enseignements élaborés, des pratiques monastiques, des récits de démons et de divinités, ainsi que des usages protecteurs ou divinatoires. Cette pluralité empêche une vision idéalisée d'un Tibet entièrement voué à une sagesse abstraite. Les phénomènes extraordinaires racontés dans le livre ont aussi une dimension sociale. Ils expriment des peurs, des espérances et des manières de rendre intelligible la maladie, le danger, la mort ou l'incertitude. L'autrice reste attentive aux risques de fascination. Son intérêt pour l'extraordinaire ne l'empêche pas de critiquer la crédulité, qu'elle l'attribue aux habitants des régions visitées ou aux lecteurs occidentaux avides de merveilleux. Cette ambivalence donne au texte sa tension principale. Il restitue le pouvoir culturel des croyances sans demander que le lecteur abandonne son jugement critique. Quatrièmement, les phénomènes psychiques sont examinés sans validation systématique du surnaturel. David Neel affirme avoir été témoin de certains faits inhabituels et rapporte également de nombreux récits entendus. Pourtant, son projet affiché consiste moins à imposer une croyance qu'à faire connaître la manière dont ces faits sont interprétés dans un pays alors peu accessible au public européen. Cette retenue relative est importante. Les exercices de visualisation, les états de transe, les capacités corporelles attribuées aux ascètes ou les apparitions ne reçoivent pas tous le même statut dans le livre. Certains éléments relèvent d'observations, d'autres de traditions orales, d'autres encore des interprétations personnelles. Une lecture solide doit conserver cette gradation au lieu de chercher soit une preuve globale du merveilleux, soit une réfutation expéditive de l'ensemble. Le texte gagne à être abordé comme une archive de rencontres interculturelles et comme un document sur l'histoire des intérêts occidentaux pour la psychologie, l'occultisme et les religions asiatiques. Les descriptions de l'autrice posent une question toujours actuelle : comment parler d'expériences subjectives intenses sans les réduire immédiatement à l'illusion ni les déclarer automatiquement surnaturelles. Cette position intermédiaire, parfois inconfortable, encourage à considérer les effets de la suggestion, de la discipline et des cadres de croyance, tout en reconnaissant que l'expérience humaine ne se laisse pas facilement enfermer dans une seule explication. En dernier lieu, un regard pionnier, précieux mais indissociable des catégories de son époque. La force historique de mystiques et magiciens du Tibet provient de l'accès exceptionnel que son autrice a obtenu à des milieux et à des territoires rarement décrits de façon aussi incarnée en français au début du XXe siècle. Sa culture, sa connaissance des langues et sa longue expérience asiatique distinguent son livre du récit de voyage rapide ou de la fantaisie exotique. Néanmoins, les lecteurs contemporains doivent tenir compte du vocabulaire et des catégories employées. Le terme « lamaïsme », courant à l'époque, est aujourd'hui généralement remplacé par « bouddhisme tibétain », car il peut suggérer à tort une religion séparée ou réductible au rôle des lamas. De même, les oppositions entre religion, superstition, magie et psychologie reflètent en partie les débats intellectuels européens de son temps. Ces réserves ne diminuent pas l'intérêt du texte, elles en précisent la portée. Lire David Neel avec un regard critique permet de saisir simultanément des informations sur les mondes tibétains qu'elle a fréquentés et sur la manière dont une exploratrice européenne construisait leur intelligibilité pour son public. L'ouvrage est donc utile aux lecteurs d'histoire culturelle autant qu'aux amateurs de spiritualité. Il apprend à replacer tout témoignage dans les conditions de sa production, notamment lorsqu'il traite de sociétés inégalement connues, de pratiques secrètes ou de récits difficiles à vérifier. En conclusion, Mystique et magicien du Tibet s'adresse d'abord aux lecteurs intéressés par l'histoire des voyages. Le bouddhisme tibétain, les pratiques contemplatives et la circulation occidentale des idées spirituelles asiatiques. Il conviendra également aux étudiants en histoire des religions ou en anthropologie, à condition de le compléter par des travaux plus récents sur le Tibet et sur le bouddhisme. Son bénéfice intellectuel principal est de faire comprendre que les pratiques méditatives, les récits merveilleux et les croyances populaires ne peuvent être séparés sans précaution de leur environnement culturel. Le livre exerce aussi l'esprit critique, car il oblige à distinguer expérience rapportée, observation, tradition orale et interprétation personnelle. Par rapport aux guides spirituels contemporains ou aux synthèses universitaires, l'ouvrage se démarque par la présence directe de son autrice. David Neel écrit depuis les routes, les monastères, les rencontres et les contraintes matérielles de son exploration. Cette proximité confère une intensité que les études générales n'ont pas toujours, sans pour autant dispenser le lecteur d'une mise en contexte historique. Sa valeur ne réside donc pas dans une autorité définitive sur des phénomènes occultes, mais dans l'alliance rare d'un récit de terrain, d'une curiosité intellectuelle et d'une prudence souvent affichée devant le sensationnel. Lire ce livre aujourd'hui, c'est découvrir un classique de la littérature de voyage française, tout en interrogeant les filtres culturels à travers lesquels l'Europe a regardé le Tibet. Si vous souhaitez soutenir Alexandra David Neel, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.